France Culture.
Bonjour à tous et bienvenue à la Grande Table, magazine culturel de la mi-journée sur France Culture, avec dans les cuisines aujourd'hui Sarah Bernard et Ségolène Darny, Corinne Amard, Brigitte Masson et notre stagiaire Thibaut Sardier, à la réalisation Perret Legras, à la prise de son Tanguy Le Corneau. Une grande table chinoise aujourd'hui, puisqu'il sera question de la Chine dans les deux parties. Dans notre conversation, dans un instant, nous parlerons de la folle entreprise d'un journaliste chinois qui nous donne à lire un compte-rendu à la fois personnel et historique, très documenté de la grande famine provoquée par le régime de Mao Tse-tung entre 1958 et 1961. Pascal Horry, Philippe Trétiac et un nouveau venu à la grande table, le sinologue Emmanuel Linco, ont lu ce livre pour nous et en discuteront ensemble d'ici quelques instants. En deuxième partie, nous nous intéresserons à l'œuvre du prix Nobel de littérature 2012, un prix annoncé la semaine dernière, le chinois Mo Yan, qui naît en 1955 dans une province rurale de Chine, a lui aussi failli mourir lors du grand bond en avant, et dont toute l'œuvre est empreinte de cette histoire. Retour sur l'œuvre de Mo Yan avec trois spécialistes, Noël Dutrait, Dorian Malovitch et Zhang Yind, tout à l'heure à partir de 12h55.
Welcome to Saint Onan. Now you have chosen for your category sense of sound, right? Now you know how we play, we're going to give you certain sounds to identify, and now...
Le grand bond en avant vous a profondément marqué, mais vous n'en êtes pas revenu, et vous n'avez pas compris ce qui était vraiment derrière le grand bond en avant. Or, si vous vous donnez la peine de lire mon livre, de lire sur le grand bond, vous verrez que ce n'est pas du tout métaphysique, que ça n'a rien à voir avec cette idée spiritualiste que vous donnez de Mao Zedong. C'est un nouveau modèle économique qui a été créé non pas par Mao Zedong tout seul, mais par des économistes autour de lui qui se sont demandé la grande question: quelle est l'économie qui serait adaptée au relèvement d'un pays sous-développé, comme la Chine était sous-développée, d'un pays du tiers-monde, et qui a réussi. Aujourd'hui, si la Chine aujourd'hui a réussi, si aujourd'hui elle est capable de faire ce qu'elle fait, c'est à cause du grand bond en avant.
Et oui, l'idéologie à la peau dure. Alors certes, c'était en 1975. L'écrivaine et sinologue Han Suyin était invitée de Bernard Pivot dans son émission Apostrophe pour venir parler de son livre Le premier jour du monde. Aujourd'hui, paraît en France, donc nous sommes en 2012, un livre interdit en Chine qui vient sans doute ébranler cette mémoire maoïste jusque-là intouchable. Ce livre s'intitule Stèle, la grande famine en Chine 1958-1961. Il est signé d'un journaliste chinois, Yang Tisheng, et il paraît aux éditions du Seuil. C'est un livre qui tente d'établir la vérité sur un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire contemporaine chinoise, le grand bond en avant, décidé et mis en place par Mao Tse-tung. C'est d'abord peut-être un livre personnel, puisque le père de ce journaliste est mort de faim pendant ses années noires. Il le dit lui-même, ce livre est une stèle pour mon père, mort de faim en 1959, une stèle pour 36 millions de Chinois victimes de la famine, une stèle pour le système responsable du désastre. Alors pour commencer, bonjour à vous Pascal Horry.
Bonjour Caroline.
Il faut peut-être faire une piqûre de rappel sur ce que fut le grand bond en avant, tant dans son idéologie que dans son application.
Oui, parce qu'il y a deux lectures qu'il faut faire à la fois successivement et même simultanément de ce livre, qui sont des stèles, hein, clairement. D'ailleurs, la référence au père est essentielle, je dirais déjà dans la tradition chinoise, du respect des aînés, mais d'autre part dans n'importe quelle tradition. Donc, plus qu'un livre, hein, 650 pages, 905 notes. Hein, vous voyez, déjà, il faut prévenir l'auditeur, c'est tout à fait impressionnant, ce sont des stèles. Et ça nécessite qu'on... n'est une double lecture, d'abord sur le fameux grand bond en avant et la catastrophe en elle-même, mais je pense qu'il faut aussi avoir une lecture contemporaine. Comment un tel livre est-il possible aujourd'hui? C'est-à-dire, comment a-t-on pu l'écrire, le documenter? Comment peut-il sortir, certes interdit en Chine, mais quand même avec un auteur qui n'est pas non plus un dissident, hein. Donc je pense qu'il faudra assez vite arriver à ce point-là. Mais le grand bond en avant se situe effectivement à la fin des années 50, à un moment où la Chine est en train, en fait, de définir son chemin singulier par rapport à l'Union soviétique, ce qui n'était pas clair pour les Occidentaux, à une Union soviétique qui est en phase de déstalinisation progressive mais incontestable. Et on peut interpréter, il y a plusieurs interprétations dans le livre, le grand bond en avant, de plusieurs façons. C'est clairement, entre autres, un moyen pour Mao Tse-tung, et à la limite Mao Tse-tung seul, parce qu'on voit bien à quel point l'empereur est terriblement seul, et terriblement efficace quand même dans cette solitude, souhaite reprendre la main, marquer que il ne va pas entrer dans la logique de la déstalinisation qui pourrait peut-être le menacer après tout, et au contraire accélérer le mouvement, pousser les feux vers une réappropriation complète. Alors c'est à la fois de la collectivisation, mais la collectivisation était déjà en cours, mais c'est aussi une manière de dire la Chine peut atteindre des objectifs absolument faramineux, en particulier sur le plan industriel. Et on va atteindre ces objectifs, d'abord en éclatant l'industrialisation, ce qui va se révéler catastrophique, et d'autre part, en faisant en sorte que les campagnes nourrissent en quelque sorte cet énorme effort. Le résultat, c'est qu'on ruine les deux. On ruine l'industrie, on ruine les campagnes. Alors, il faut quand même être clair, vous avez dit quand même un chiffre essentiel, environ 36 millions de morts. On sait bien que ces chiffres, on ne pourra jamais complètement les vérifier avec le degré d'information statistique qu'on peut avoir sur cette époque-là. Bon, c'est clair, mais ça donne une échelle. Il y a aussi le déficit démographique. Et ces morts, ce sont des morts de malnutrition. Le père de Yang Ticheng, par exemple, ce sont aussi des exécutés, puisqu'il faut obliger les Chinois à se soumettre aux consignes. Ce sont des suicides. Il y a des scènes dantesques dans ce livre sur, par exemple, des suicides de responsables. Un responsable qui a cru au grand bond en avant et qui voit qu'il est complètement coincé parce que les objectifs sont absolument inatteignables, et qui se jette dans un puits avec toute sa famille. Bon, et je dirais que les 650 pages sont quand même assez largement nourries de ça, mais aussi des querelles d'appareil, puisque évidemment, tout ça se réfugie au sommet, si t'es interdite ou pas, et clairement, ça permet aussi à Mao Tse-tung de régler ses comptes. Ce qui est extraordinaire, c'est que, d'une certaine façon, il va rester au pouvoir, non seulement malgré l'échec, puisque ce sera un échec, à la fois industriel, agricole et démographique, mais il faudra 2 ou 3 ans pour en tirer les leçons, mais peut-être qu'il est resté au pouvoir grâce à cet échec.
Alors, ceci étant dit, maintenant, Pascal Horry, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce livre-là et la forme même de ce livre-là, qui est un livre de journaliste, qui se fait historien. Peut-être ce qui frappe, c'est que on se dit, on est en 2012, paraît aujourd'hui en France un livre écrit par un Chinois, qui tente, en tous les cas, c'est ce que prétend l'éditeur et l'auteur aussi, d'établir une vérité, comme si cette vérité n'avait jamais été faite. Alors je vais tout de suite me tourner vers notre nouveau venu à la grande table, Emmanuel Linco, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sinologue, vous êtes directeur de la chaire des études chinoises contemporaines à l'Institut catholique de Paris, donc très bien placé pour parler de ce livre Stèle de la grande famine et de cet objet livre. Est-ce que ça vous a frappé aussi, comme si on découvrait même ici en France un tel livre ?
D'un point de vue historiographique, on connaissait déjà les ravages du grand bond en avant à travers notamment les écrits de Simon Leys, ce fameux sinologue belge qui, à la suite de la révolution culturelle, pour l'avoir dénoncé dans ce pamphlet fameux publié par la suite en 1972, Les habits neufs du président Mao, a été obligé de quitter l'Europe et de se réfugier véritablement en Australie. On connaissait cela, on connaissait également des témoignages de réfugiés à Hong Kong. Bref, c'était un drame dont on avait une préconnaissance, je dirais. Mais l'originalité, c'est que ce témoignage émane d'un Chinois, émane d'un récit qui a été d'abord publié à Hong Kong en chinois, puis en langue étrangère et notamment en français. En revanche, ce qui est tout à fait stupéfiant, rétrospectivement, c'est de voir que l'élite intellectuelle française et européenne d'une manière générale a été frappée de cécité au moment des faits. Et rétrospectivement, la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine qui survient en 1964, c'est-à-dire 2 ans seulement après la fin officielle du grand bond en avant, fait froid dans le dos.
Bonjour Philippe Rétiac.
Bonjour.
Alors comment avez-vous lu ce livre, vous ?
J'ai trouvé d'abord le livre absolument, tout à fait remarquable. D'abord pour une raison, c'est que je trouve extraordinaire la manière dont l'auteur remonte en amont pour essayer de faire comprendre l'enchaînement des décisions catastrophiques qui comme une espèce de gigantesque boule de neige augmente prend de l'ampleur. Je trouve que il dit une première chose qui m'a paru très intéressante, c'est que semble-t-il le système hiérarchique chinois fait, dit-il, que on se trouve, il y a comme une espèce de tenaille. Les décisions prises au sommet par Mao sont amplifiées à chaque couche quand elles redescendent par peur, par je sais pas, il faudra voir en quelle mesure la société mandarinale se retrouve encore dans la société communiste, ça me semble être une question importante, et il montre en même temps comment les plaintes de la base, disons, sont étouffées à chaque couche en remontant, ce qui fait que l'incompréhension est totale. Ça, c'est la première chose. Ce qui m'a très impressionné aussi dans ce livre, moi, j'avais évidemment entendu parler toujours du fait que pendant cette période, on avait détruit systématiquement toutes les cuisines dans tous les foyers. J'avais toujours trouvé ça absolument fascinant. Et là, il l'explique extrêmement bien. Non seulement on détruit les éviers, les réchauds, mais on prend les couverts, il reste plus, les casseroles, etc. Le résultat, c'est que quand c'est malheureux, eux se retrouvent à essayer de manger des écorces d'arbres, ils n'ont même plus de quoi faire chauffer quoi que ce soit, il n'y a plus un ustensile. Bon. Et ce qui m'a impressionné dans le livre, et je trouve qu'il l'explique très bien, c'est la fureur. Ce qui m'impressionne, je me souviens que j'avais interviewé il y a quelques années un photographe chinois qui avait travaillé pour un compte d'un journal officiel et qui avait publié enfin ses photos interdites. Et je lui avais dit, vous qui êtes un homme de la vue, quel est le souvenir auditif que vous gardez de cette période ? Il m'avait dit des cris. Je me souviens d'une période où tout le monde criait. Et dans le livre, c'est très sensible. Il y a des choses absolument incroyables. On décide, par exemple, on annonce qu'on a construit 10 000 usines en 15 jours. Des gens s'engagent à écrire 60 pièces de théâtre en une nuit. C'est des choses comme ça. Tout est comme ça. Tout est inscrit dans cette fièvre, vraiment le bond en avant, il est partout. C'est très impressionnant et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment... Est-ce qu'il y a quelque chose de chinois dans cette hystérie collective ?
Emmanuel Lincot.
L'idéologie est au pouvoir dans ce système totalitaire. La nature du régime communiste chinois est profondément totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre les structures de l'État et celles d'un parti unique. Et on ne peut pas comprendre le grand bond en avant sans le mettre dans une perspective historique, c'est-à-dire remonter tout simplement 2 ans plus tôt, au moment où éclate le mouvement des sans-fleurs, quand Mao Tse-tung fait déporter près de 6 millions d'intellectuels. Si bien qu'à partir de 1958, il est seul, véritablement, aux commandes du pouvoir, et décide seul également de ce grand bond en avant qui vise, d'après le slogan de l'époque, à rattraper l'Angleterre. Et ce, par n'importe quel moyen, et notamment par la fabrication de ce que l'on a appelé à l'époque les petits hauts fourneaux. C'est-à-dire qu'imaginez ici même, en tant qu'entité collective administrative, la maison de la radio est transformée en petits hauts fourneaux. Et donc, tous les moyens doivent être mis en œuvre, c'est-à-dire que les micros seront fondus pour fabriquer les futurs tubes des futures usines des lendemains qui chantent. Et évidemment, c'est une gabegie totale, d'autant que la population est militarisée, enrégimentée dans des brigades de production, si bien que les grandes récoltes de l'été 1958 n'auront pas lieu. D'où les conséquences en chaîne, famine notamment, se poursuivant jusqu'en 1962. Et c'est la plus grande catastrophe humanitaire du XXe siècle.
Pascal ?
Il y a un mot qui peut paraître incongru qu'il faut prononcer, c'est le mot d'utopie. D'ailleurs, faire allusion à l'Angleterre à cette époque-là, c'est comme si on était au 19e siècle, d'une certaine façon, que le principal objectif c'était ça. Alors bien entendu, l'Angleterre, c'était le premier objectif à atteindre après les États-Unis. Mais quand même, on a l'impression qu'on est devant des utopistes du 17e, 18e, 19e siècle. Et on a cité aussi Simon Leys, qui a été fasciné par la construction des utopies à l'époque moderne. Donc on a des responsables. Et en effet, comme le disait Emmanuel Lincot, ils sont de moins en moins nombreux, puisqu'on a quand même liquidé une bonne partie de l'intelligentsia chinoise quelques années auparavant, qui ont décidé de passer à l'utopie. Et d'une certaine façon, c'est une fuite en avant, hein, par rapport en particulier au contre-modèle soviétique. Il faut quand même toujours avoir présent à l'esprit le fait que c'est pas encore tout, ça va être la rupture entre l'Union soviétique et la Chine. Enfin, c'est clairement un contre-modèle, et un contre-modèle pour Mao Tse-tung. Alors, il faut ajouter que le fait que Mao Tse-tung soit plus que jamais au pouvoir est, à mon avis, dans une logique, en effet, qu'on peut qualifier de chinoise, en se méfiant évidemment des interprétations nationales, ethniques, voire racistes. Mais c'est vrai qu'on est devant un système qui a l'habitude, quand même, de ce type de commandement vertical. Et évoquer les mandarins, c'est sans doute pas inexact. Sauf que, évidemment, on a là affaire à des mandarins. On va retrouver ça de façon aggravée dans quelques années avec la révolution culturelle. Des mandarins qui n'ont pas fait d'études. Donc, est-ce que ce sont des mandarins ? C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, quand même, et Mao Tse-tung va très bien s'en servir comme Staline, on va se soutenir sur de nouvelles générations, sur des jeunes, hein, ça sera très caricatural avec la révolution culturelle, des jeunes, des ingénieurs, des techniciens, donc rapidement formés, voire pas formés du tout, mais qui vous sont absolument dévoués. Donc ça, c'est une logique, en effet, proprement totalitaire. On est dans le néo-religieux.
Philippe Trépiac.
J'ajoute que dans cette idée de rattraper l'Angleterre, ce qui est très surprenant aussi, c'est que on se dit toujours qu'on est dans une phase de socialisme et que le communisme, c'est alors là vraiment une utopie lointaine. Mais là, dans le cas présent, on décide que le communisme, il sera dans, c'est
pour
dans
demain.
12 ans, c'est dans 14 ans, c'est dans 10 ans. Et je crois qu'il se passe un phénomène aussi, c'est que à partir du moment où on regroupe les populations dans ces cantines populaires, les gens, raconte l'auteur, dévorent tout ce qu'ils ont. C'est comme si le communisme était déjà réalisé, c'est à chacun selon ses besoins. Donc, toutes les l'économie, tout ce qui avait été engrangé en prévision des mois à venir est dévoré par la population dans une espèce de folie, comme si tout allait très bien. Et puis, quelques mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc, il y a aussi une inconscience absolument stupéfiante aussi.
Ce qu'il faut rappeler aussi, ce sont les filiations idéologiques d'un Mao Tse-tung, la Commune de Paris en particulier. C'est-à-dire que les auteurs tels que Blanqui et Proudhon sont lus par le jeune Mao Tse-tung, c'est-à-dire au début du siècle. Et on ne peut pas comprendre l'État du Grand Bond en avant et la Révolution culturelle quelques années plus tard sans se référer effectivement à ce que Pascal Horry qualifie de mouvement néo-religieux. Il y a de cela véritablement, avec un élément fondamental aussi pour comprendre le mode de gouvernance, comme l'on dit aujourd'hui, de Mao Tse-tung, c'est la peur. C'est la peur qui commande tout et qui inhibe absolument toute forme de réflexe de contre-pouvoir ou autre.
Philippe ? Oui, quand vous parlez de peur, on n'en a pas, ou on l'a, enfin, Pascal Horry l'a rappelé brièvement, mais c'est vrai que les scènes de sévices, de torture sont absolument terrifiants.
Et des sévices, entre guillemets, on pourrait dire médiévaux, c'est-à-dire qu'on on est au cœur du XXe siècle, et effectivement, on torture en public comme au XIVe siècle occidental.
Je voudrais pas qu'on termine cette émission, puisqu'il est déjà 12h18 hein, sur France Culture, sans avoir abordé le deuxième point qui vous semblait important, Pascal Horry, qui était la signification d'un tel livre aujourd'hui, qui plus est en France.
Oui, je vais d'ailleurs interroger Emmanuel Lincot très vite là-dessus, parce que malgré tout, ce livre a été possible. Il y a eu une enquête de l'intéressé. Certes, il a été journaliste chez Nouvelle, etc., donc il pouvait s'introduire plus facilement, mais quand même, il a réussi à réunir une documentation. Puisqu'on parle de grande famine, on peut penser à Nicolas Vert sur l'Ukraine, ça se répète. D'ailleurs, ce sont toujours les paysans qui sont les principales victimes, comme par hasard, puisque dans un état ouvrier, etc. Mais il a réussi à faire cette enquête. Il dit clairement que le système actuel, alors 2012, est un système qui vacille, et que ce système est solidaire de ces atrocités. Donc il dit quand même des choses absolument énormes.
Et la grande famine qui reste un tabou en Chine. Hein,
c'est oui, mais malgré tout, certes, c'est sorti à Hong Kong. Alors moi, je m'interroge sur le statut de Yang Tichang, qui apparemment n'est pas complètement persona non grata en Chine populaire. Et moi, j'en conclus surtout qu'à l'heure actuelle, il y a d'une part au sommet, à cette minute même, là, ce matin, cet après-midi, il y a des luttes de factions incontestables en Chine qui font qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction, comme précédemment, la ligne dure, la ligne modérée va l'emporter. Et d'autre part, il y a quand même une société, moi, ma faible expérience chinoise, mais enfin renouvelée à peu près tous les ans depuis quelques années, on est devant une société qui est mûre pour entendre ça, pour dire ça, et qui va sans doute moins facilement qu'avant se laisser bâillonner.
Emmanuel Lincot.
Je pense effectivement qu'il faut faire une comparaison avec l'ouvrage de Nicolas Vert concernant donc la famine programmée par Staline contre les Ukrainiens. On se demande si ce n'est pas un mode de gouvernance que l'on retrouve d'ailleurs dans la Corée du Nord actuelle, consistant à affaiblir systématiquement la population pour que le pouvoir d'un seul soit maintenu, en l'occurrence Mao Tse-tung. Mais même si l'ouvrage reste interdit effectivement en Chine continentale, comme on le sait à travers les réseaux sociaux, l'information circule, la version originale en chinois circule sur le net.
C'est quand même très important effectivement que ça ait été écrit d'abord en chinois par un chinois.
Absolument.
C'est la grande différence.
Et ceci n'est sans doute pas le fait du hasard effectivement, l'histoire de la Chine plus qu'aucune autre sans doute se mord la queue, dans le sens où, comme on le sait, dans moins de 15 jours, le fameux congrès du Parti communiste chinois va se réunir et ce même parti a été ébranlé par la destitution du cacique, d'un des caciques du régime Bo Xilai, qui était justement l'incarnation de la nouvelle gauche, c'est-à-dire se référant à Mao Tse-tung. Et le fait qu'il ait été limogé montre bien que l'équipe sortante, Hu Jintao, Wen Jiabao, et surtout la future équipe, Xi Jinping et Li Keqiang, si tant est qu'ils soient effectivement confirmés dans leurs fonctions, ne souhaitent absolument pas revenir à une situation hantée, comprenez, ni la révolution culturelle, ni le grand bond en avant. Je pense que c'est une lecture idéologique possible et politique dans sa signification que l'on peut donner également à cet ouvrage, qui est très symptomatique, par ailleurs, d'une tendance ou d'un certain nombre de faits qui se cristallisent autour de la question de la mémoire en Chine. C'est-à-dire que c'est une question récurrente depuis ces dernières années. On a pu assister, notamment là encore en Occident, à travers l'exemple de la Mostra de Venise en 2010 et la diffusion du même film en 2012, donc récemment, du film de Wang Bing, Le Fossé, qui est le premier Nuit et brouillard du cinéma chinois. On a pu le voir aussi à travers les manifestations artistiques d'Ai Weiwei. Tout cela montre que ce travail de mémoire fait un travail de sape et que les Chinois, évidemment, la société civile émergente chinoise n'y est pas indifférente.
Philippe.
La question qui est posée aussi, c'est de savoir dans quelle mesure tous ces livres ou ces films qui sont produits aujourd'hui pourraient être pris dans un phénomène de manipulation, pourraient servir à un clan contre l'autre. Ça, c'est extrêmement... Personnellement, ce qui me concerne, j'ai aucune capacité pour en juger. C'est juste des suspicions. En tout cas, je sais moi aussi, pour aller en Chine au moins une fois par an, depuis pas mal de temps, que j'ai constaté, en tout cas, ça c'est vrai, que l'émergence de la parole contestataire était évidente. Enfin, de tous les six mois, je trouve que les gens sont beaucoup plus libres. Ils viennent vous accrocher, vous emmener, vous dire venez voir ça, dénoncez-le. C'est très impressionnant. Je trouve que la Chine, ça va très très vite, quoi.
Ce qui est évident, c'est que quand on est devant la Chine aujourd'hui, on est devant des Chinois et de plus en plus devant des individus. Parce que aussi bien le maoïsme qu'un certain Occident raciste était bien d'accord pour dire tout ça c'est une masse indistincte, dangereuse ou au contraire apathique. Ben non, actuellement, les Chinois se réveillent individualistes, pas tout à fait comme les autres évidemment, mais sur ce chemin-là. Je pense quand même qu'un livre comme ça, même s'il a pu servir dans des manipulations obscures, est un travail de sape supplémentaire. Et j'imagine difficilement qu'un régime qui intégrerait ça puisse tenir, parce que la généalogie maoïste du régime est incontestable. Et là, c'est Mao lui-même qui est attaqué.
Vous parlez beaucoup, et c'est normal, de la réception en Chine, de l'importance pour les Chinois et en Chine d'un livre comme celui-ci qui a été interdit, qui plus est sur le territoire national. J'aimerais qu'on revienne de ce côté-ci, si c'est possible, du monde, c'est-à-dire la France, et qu'on s'interroge sur la façon dont nous lisons ce genre de témoignages et sur vraiment le livre comme objet et la forme qu'a choisi ce journaliste pour faire un documentaire qui est un documentaire historique, la forme du document historique dans ce livre. Il m'a fait penser, toute proportion gardée, avec beaucoup de réserve, parce que ce n'est pas évidemment une expérience plaquée de la même façon, au livre qui a sorti cette année, Ritipan, cinéaste, qui a choisi une forme personnelle pour raconter son expérience du génocide cambodgien, du génocide des Khmers Rouges, dans un livre absolument bouleversant qui s'appelait L'élimination. Il était l'invité de la grande table. Écoutez la façon dont il parle, le pourquoi il a fait ce livre aujourd'hui.
Mon histoire est toute petite là-dedans, même si je suis obligé de... Enfin, je dois passer par moi aussi pour raconter cette histoire. Mais je raconte aussi au nom de tant d'autres camarades qui ne sont plus là et qui me manquent chaque jour. Et voilà. Mais dire qu'on a obligé de manger des insectes pour survivre, c'est pas humain. C'est pas humain. Donc il faut. Je sais pas comment vous expliquer ça. On s'accroche à la vie. On aime beaucoup cette vie. Il faut la mort dedans. Mais d'un autre côté, on est comme dans un, comment dirais, Jean Kelevich, c'est une sorte de marée qui vous submerge de plus en plus jour après jour, quoi. Cette marée de douleur. Bon, mais en même temps, il faut croire absolument que la vie est autre aussi.
Emmanuel Linco.
Oui, alors ce récit est bouleversant parce que, évidemment, l'histoire contemporaine du Cambodge est liée à celle de la Chine. Et il faut rappeler que le modèle totalitaire chinois s'est exporté, pour le pire, bien sûr, au Cambodge avec la formation des Khmers Rouges. Ce qu'il faut rappeler, je crois, ce qui me paraît tout à fait important, c'est que, En Chine, évidemment, on est sans doute dans un moment tout à fait critique et de rupture éventuelle avec les discours précédents. L'ouvrage que nous commentons aujourd'hui est non seulement une façon de rendre hommage au père de l'auteur, mais aussi à ses pères en tant qu'historien aussi, rappelons-le, notamment Chen Yinke ou bien Lian Shuming, qui quant à lui était philosophe. Bref, une façon également de porter un regard nouveau sur l'histoire de la Chine et d'une manière évidemment infiniment plus libérale. Je pense que l'autre symptôme indiquant que nous sommes là aussi à un moment carrefour, à un moment charnière, c'est l'élection donc de Mo Yan, ce prix Nobel, qui à sa manière incarne toutes les ambiguïtés de la Chine. Il a à la fois une fonction officielle, il est l'un des représentants de la communauté des écrivains de Chine, donc une organisation on ne peut plus officielle. En même temps, il est reconnu par l'Occident et par des voies de détour, par des voies métaphoriques, Mo Yan n'a cessé de critiquer le maoïsme et notamment le grand bond en avant. Donc ambivalence des discours, ambivalence de la société civile aussi par rapport à sa propre histoire.
Mais par rapport aux Français ?
Ah, par rapport aux Français, je pense que ce travail...
À cette fascination pendant très longtemps, dans les années 70, et qui a perduré...
C'est une fascination
pour Mao
mandarinale.
Et pour le
maoïsme. C'est une fascination mandarinale française, de gauche comme de droite d'ailleurs, parce que...
Alain Perfit,
Edgar Faure également, qui dans ces années-là, rappelons-le, vont en Chine juste après la fin de la 4ème République, à la demande même du général de Gaulle, pour amorcer une logique de rapprochement entre les deux États et De Gaulle, encore une fois, en 64, reconnaîtra la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan. Comment comprendre cette cécité ? Eh bien, je pense qu'elle est de la même nature que celle qu'André Gide avait connue après avoir été en ex-Union soviétique et après avoir écrit « Retour d'Urs ». Personne ne voulait le croire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inhibition intellectuelle française.
Mais j'en reviens à ce mot d'utopie redoutable. À partir du moment où émerge, quelque part à l'Est et successivement dans plusieurs endroits, après ce sera à Cuba, à l'Ouest, etc., un lieu qui semble enfin réaliser le rêve, en effet, de tous les intellectuels, le fameux intellectuel critique abandonne tout esprit critique.
Merci beaucoup à tous les trois, Philippe Tretiak, Emmanuel Linco et Pascal Horry. Nous parlions de ce livre de Tichang Yang, Stèle, la grande famine en Chine, 1958-1961, traduit du chinois par Sylvie Gentil et Louis Vincenol, est paru aux éditions du Seuil. On se quitte avec la chanteuse Yao Li. On se retrouve dans quelques minutes après le journal à 12h55, justement pour parler de Mo Yan et de ce prix Nobel de littérature. On continue donc notre table chinoise. Mo Yan, qui lui aussi d'ailleurs a failli mourir pendant la grande famine. On se retrouve donc tout à l'heure.